Bonjour à toutes et à tous. Ça tombe bien parce qu'il sera question de marche ce matin. Lève-toi et marche. C'est ainsi que j'ai intitulé cette prédication pour nous ce matin. Parce que suite à la prédication de dimanche passé où on a médité sur le Christ roi, Jésus comme roi dans ma vie, dans nos vies, qu'est-ce que ça signifie? J'ai rarement eu autant de retours de votre part. Il y a plusieurs personnes qui sont venues vers moi et qui m'ont dit « Ouais, c'est vraiment intéressant, cette thématique du royaume, cette thématique du roi, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il en est dans ma vie ?» Et puis, j'ai décidé de changer un peu ma programmation et puis de me laisser interpeller par toutes ces questions, tout ce que vous m'avez donné aussi en retour. Et puis, pour se dire, le Christ roi ou le Christ comme roi aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne dans notre vie personnelle, mais aussi dans notre vie communautaire? Et puis, il y a une phrase qui m'est restée, c'est que le Christ roi dans notre vie personnelle, dans notre vie communautaire, c'est vraiment l'Esprit qui nous a donné, la puissance de son Esprit. Puissance qui se manifeste encore aujourd'hui dans son Église. Alors, ça va être sur deux points clés que j'aimerais qu'on médite ensemble ce matin, c'est que ce Christ roi dans mon présent, c'est vraiment une force et un élan donné par son Esprit. L'Esprit de Dieu, quand on parle de l'Esprit Saint, quand on parle du Saint-Esprit, c'est vraiment l'Esprit du Christ roi, de celui qui règne. Si Jésus règne dans nos vies encore aujourd'hui, c'est par son Saint-Esprit. Et puis, c'est vraiment... C'est par son esprit, hein, vous avez bien compris l'élan. Et puis, c'est de se dire, cet élan, cette force, comment est-ce qu'on la vit dans l'unité de la communauté? Parce que, de ma petite expérience de chrétien, j'ai remarqué que c'était un sujet assez chaud quand on parle de la force, de la puissance, de l'élan donné par l'esprit. Comment cet élan, il se vit dans l'unité de l'Église, dans l'unité de la communauté? Il me semble que là, il y a un enjeu. Il y a quelque chose à méditer, puis c'est un peu ce sur quoi on va méditer ce matin. Un élan, qu'on le garde, se lève-toi et marche, et aussi comment est-ce qu'on peut vivre au mieux cet élan au sein de la communauté. Parce qu'on a tous des sensibilités, des histoires, des personnalités différentes par rapport à cet élan donné par l'Esprit. Et comme vous allez le voir, pour moi, cette question du Christ roi dans le présent de l'Église, ce n'est pas une question très facile. Puisqu'il me semble que quasi chaque personne, chaque membre du corps de Christ, a un peu une opinion particulière au sujet du Saint-Esprit. Et puis, c'est normal. C'est normal d'avoir chacun une sensibilité particulière, parce qu'on a tous nos propres histoires, on a tous nos propres sensibilités, puis on a tous fait nos propres expériences avec le Saint-Esprit. Donc, c'est très difficile d'avoir une vision unique et catégorique sur l'action de l'Esprit. Donc, je me lance un peu ce matin en étant encouragé par les retours que vous m'avez donnés. Pour moi, le Christ roi, c'est vraiment l'action de son Esprit. Mais je me lance, puis sans fausse modestie, avec beaucoup d'humilité sur ce terrain, parce que justement, je sais qu'il y a beaucoup de sensibilités différentes sur cette question-là. Alors qu'on puisse vraiment se rappeler de ces deux points clés, cette force et cet élan donné par l'Esprit, et que cette force et cet élan, on tâche de le vivre dans l'unité de la communauté. Il y a un livre qui nous parle particulièrement de cette force donnée par l'Esprit de Christ roi, c'est le livre des Actes des Apôtres. Ce livre nous parle particulièrement de la manifestation de l'Esprit et surtout de cette continuité entre le ministère de Jésus sur cette terre et le ministère de ses disciples. L'évangéliste Luc, hein, c'est celui qui a composé l'évangile de Luc et qui a composé ici le livre des Actes des Apôtres, il a voulu dans son intention montrer clairement que l'action de Jésus sur terre se continue à travers l'action de ses disciples. Il n'y a pas de rupture. La seule différence, et puis c'est une différence capitale, entre Jésus et ses disciples, c'est que les disciples agissent en se soumettant à l'autorité du Christ roi. Ce n'est pas une action qui vient de leur part, mais s'ils agissent sous l'action de l'Esprit, ils sont aussi, par définition, soumis à cette action de l'Esprit. Ce n'est pas eux qui manipulent l'Esprit, c'est une soumission totale à l'Esprit. Et là, on retrouve bien cette thématique du Christ roi. Si Jésus agit par ses disciples et par nous, c'est en soumission à sa royauté, en soumission à qui il est véritablement. Ce royaume se manifeste particulièrement en invoquant, en glorifiant, en proclamant le nom de Jésus-Christ dans nos vies et dans notre vie d'Église. C'est vraiment cette puissance qui nous est donnée, cet élan qui nous est donné à son Église et à chacun des membres qui la composent. Continuité donc entre le ministère de Jésus, ce Christ roi, dans le passé, parce que ça fait 2000 ans qu'il a agi, mais que ce Christ roi, il se fait présent par l'action de son esprit encore aujourd'hui dans son Église. Et pour ce faire, on va lire un passage dans les Actes des Apôtres. Si ça marche, sinon tu peux passer, Cindy, le texte. C'est dans Actes 3, à partir du verset 1, puis on va lire les 16 premiers versets. Actes 3, à partir du verset 1 du chapitre 3. Un jour, Pierre et Jean vont au temple pour la prière de 3 heures de l'après-midi. Près de la porte du temple, appelée la Belle Porte, il y a un homme infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on l'apporte et on le dépose là. Il demande de l'argent à ceux qui entrent dans le temple. L'infirme voit Pierre et Jean qui vont entrer. Il leur demande, comme d'habitude, de l'argent. Pierre et Jean tournent les yeux vers lui. Et Pierre lui dit, « Regarde-nous !» L'homme les regarde avec attention. Il pense, « Ils vont bien me donner quelque chose aussi. » Alors Pierre lui dit, « Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Pierre prend l'homme par la main droite pour l'aider à se lever. Aussitôt, les pieds et les chevilles de l'infirme deviennent solides. Il se lève d'un bond et se met à marcher. Il entre avec Jean et Pierre dans le temple. Il marche, il saute, il chante la louange de Dieu. Toute la foule le voit marcher et chanter la louange de Dieu. Les gens le reconnaissent, mais c'est lui qui était assis à la belle porte du temple pour mendier et nous demander de l'argent. Alors, ils sont effrayés et très étonnés à cause de ce qui est arrivé à l'infirme. L'homme ne quitte plus Pierre et Jean, il leur colle au basque. Toute la foule est très étonnée, elle court vers eux, le long des colonnes appelées colonnes de Salomon. En voyant cela, Pierre dit à la foule, « Frères israélites, ce qui est arrivé vous étonne? Mais pourquoi donc? Pourquoi est-ce que vous nous regardez de cette façon? » Je vois bien ce qui vous turlupine. Vous avez l'air de penser, mais c'est Pierre et Jean qui ont fait marcher cet homme, parce qu'ils sont eux-mêmes puissants et fidèles à Dieu. Mais non! Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, a donné de la gloire à qui? À son serviteur Jésus. Vous, vous l'avez livré, vous l'avez rejeté devant Pilate. Pourtant, celui-ci avait décidé de le libérer. Petite pointe polémique là. Vous, vous avez rejeté celui qui est saint et juste et vous avez demandé que Pilate vous libère un assassin. Vous avez fait mourir le maître de la vie, mais Dieu l'a réveillé de la mort et nous en sommes témoins. Maintenant, vous voyez cet homme et vous le connaissez. C'est le nom de Jésus, le roi, qui l'a guéri parce que nous croyons en lui. C'est la foi en Jésus qui lui a donné toute la santé devant vous tous. Amen. Comment est-ce que je réagis à ce type de texte? Comment est-ce que nous réagissons à ce type de texte? Il est impressionnant, hein? Cette rencontre, cette guérison miraculeuse, tout ce qui se joue là, il y a quelque chose qui nous dépasse. Pour moi, il y a d'abord plusieurs valeurs du royaume et l'action de l'esprit qui vont de pair. Les uns ne sont pas opposés aux autres. Il y a plusieurs petites actions qui sont effectuées par Pierre et Jean, qui sont toutes simples, je dirais, presque anodines. La première, c'est la possibilité de cette rencontre. Pierre et Jean s'intéressent à celui qui est là depuis toujours. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout commence par un jeu au niveau des regards. Il y a l'homme qui les regarde, il pense qu'il va se passer quelque chose. Ensuite, Pierre, pour une fois, par rapport au reste de la foule, il le regarde aussi. Et ensuite, il se regarde encore deux fois, mais c'est des verbes différents en grec, parce qu'il y a une intensité qui est de plus en plus forte. On passe de quelque chose de très général à quelque chose de très particulier. Tout à coup, le regard est capté entre les deux, et il y a une relation qui peut commencer. Puis pour moi, là, il y a déjà quelque chose du royaume de Dieu. Dans le sens où Pierre, par son geste d'ouverture vers l'autre, son geste où il va vers cet infirme qui faisait partie des meubles, il brise ce cercle de la différence et de l'habitude. Ce gars, il était là, et puis il faisait vraiment partie du décor. Il était là, et puis sa situation, elle était la même, et puis elle devait rester la même jusqu'à la fin de ses jours. Il avait son rôle, sa place dans la société, c'était qu'il devait se tenir devant la belle porte et mendier, puis nous, ou bien la société, en tant qu'elle était là, elle devait juste lui donner l'aumône. Comme ça, tout le monde était content, les interactions sociales, chacun était à sa place, ça marchait bien. Les valeurs du royaume, pour moi, c'est vraiment cette possibilité que Dieu nous donne par son esprit de briser ces cercles d'essai comme ça. Non, ce n'est pas comme ça. Il y a quelque chose d'autre qui peut se vivre. Et puis pour ce faire, il y a vraiment une ouverture qui est nécessaire, une nécessité de briser ce cercle de la différence, ce cercle de l'habitude. Ce cercle aussi un peu du conformisme social, où on est bien confortable quand chacun est à sa place. L'esprit, quand il fait irruption, il casse ces catégories-là. Casser la différence, oser s'ouvrir à l'autre. Ces attitudes qui sont pour moi aussi simples qu'elles sont extrêmement difficiles. Je ne sais pas si vous réfléchissez à votre vie de tous les jours ou à ma vie de tous les jours lorsque j'y réfléchis. On est dans ces rails-là. C'est extrêmement difficile de s'ouvrir à l'autre et de casser ces indifférences dont nous sommes tous victimes ou des fois témoins. C'est vraiment un effort à faire. Et puis je pense que cet effort, il peut être fait si on est aussi habité par, par l'esprit. Il m'est encore arrivé un petit truc dernièrement où j'étais au repas des jeunes à midi, le jeudi à midi. Et puis je devais venir chercher quelque chose à la frat. Petit détail, je ne sais même plus ce que c'était. Et puis, j'étais en plein repas, puis je me suis dit, mais bon, je pense à ce truc-là que je dois venir chercher. Puis je me suis dit, ben, ça peut attendre, là je suis avec les jeunes, c'est cool, on rigole bien, on a de bonnes relations. Donc, je vais reporter ça au fil de l'après-midi. Puis, deux minutes plus tard, il y a à nouveau une assistance qui me dit, non mais David, va à la frat, maintenant, va chercher ce truc-là. Je dis, bon, ben, écoute, je me laisse interpeller par cela. Et j'arrive devant la frat. Et puis, pourtant je dis assez souvent, hein, et je tombe sur quelqu'un que je n'avais jamais vu et qui me demande de prier pour lui. Dans mon quotidien, là, j'ai osé être arrêté par une interpellation qui ne venait visiblement pas de moi puisque je l'avais balayé. Et puis, on a pu prier ensemble, il a pu m'exposer en quelques mots sa situation, on n'a pas fait une demi-heure. Mais il y a une relation qui s'est créée parce que j'ai, une fois, été interpellé, en tout cas sur ce coup-là, par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, on casse l'habitude, on casse ce qu'on avait l'habitude de faire, et puis on va là où quelque chose se passe. Ça a l'air tout con, hein, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé dans sa vie, mais il y a quelque chose qui s'est passé lors de cette rencontre à ce moment-là. Ouverture, attention à l'autre, et la seule motivation qui est là, c'est cette motivation de l'amour de l'autre. Je pense que cette ouverture qui devrait être la nôtre, qui peut être la nôtre, elle est là parce qu'on est motivé par l'amour qu'on a les uns pour les autres. Sans amour, il n'y a rien qui se passe. Ce qui a motivé Pierre et Jean à aller vers cet infirme, c'est l'amour qu'ils avaient pour lui, rien d'autre. Ce n'est pas pour se glorifier personnellement, on l'a vu après. C'est vraiment parce qu'ils ont été sensibles à sa situation. Ils ont dit, cette situation n'est pas normale. Cette situation, elle peut changer. Un regard autre de foi, d'espérance qui a été placé sur cet homme. Et puis aussi, surtout, et c'est là que je suis particulièrement interpellé, ils osent prier pour la guérison de cet homme. C'est incroyable, hein? Se dire, ils voient cet infirme. Pour moi, ils ont un courage extraordinaire d'aller vers lui et d'oser prier pour sa guérison physique. Et effectivement, le royaume de Dieu, cette puissance de Christ 3, peut aussi se manifester sous ces aspects-là. On a peut-être un peu peur, on est peut-être un peu méfiant, c'est quelque chose certainement qui nous dépasse, mais je pense que l'esprit de Christ 3, cet esprit qui règne aussi parfois dans notre présent, il peut se manifester même dans des exemples comme ça de guérison. L'expérience nous le prouve, la parole biblique nous le prouve aussi. Dans ces situations-là, je trouve que c'est très important de pouvoir se rappeler qu'effectivement le royaume peut se manifester de cette manière-là, mais c'est toujours selon le bon vouloir du roi. On est complètement soumis à sa royauté. Quand on dit que c'est l'esprit du roi et qu'on y est soumis, c'est un exemple particulièrement fort. C'est de se dire que lorsque l'on prie pour la guérison, on place simplement notre foi dans celui qui est capable de guérir. On ne cherche pas à influencer, à mettre la pression, à se donner une quelconque gloire. Et c'est là que c'est très important de se rendre compte que ce lien entre la foi et la guérison, c'est ce lien de soumission totale à l'esprit du Christ roi, de celui qui règne. Ce n'est pas une manière d'influencer ses choix. On est dépendant de sa volonté. Et puis c'est un sujet dont on parle quand même assez souvent. C'est important aussi de préciser qu'il n'y a pas une espèce de quantification ou de qualification de la foi de la personne qui prie. Il n'y en a aucune de quantification ou de qualification. En se plaçant sous la responsabilité, sous la force de ce Christ roi, c'est cela la foi. Ce n'est pas une question qu'on peut mesurer ou qu'on peut regarder chez l'autre. Puis des fois, les chrétiens, on est un peu tordus, parce que quand il n'y a pas une guérison, on commence à incriminer l'autre puis dire il n'a pas eu assez de foi, ou il n'a pas eu assez de confiance en l'autre, ou bien parce que si, parce que ça s'égrène. Ce genre de remarque, déjà, c'est néfaste parce que ça laisse des blessures énormes, et puis ça n'a strictement rien de biblique. La quantité de foi n'a rien à voir. La foi dont il est question dans ce texte, parce qu'effectivement, il y a un lien entre la foi et la guérison, c'est simplement cette attitude d'enfant de Dieu de se placer sous la responsabilité et la force du roi. C'est tout, et de son esprit. C'est tout, ça ne va pas au-delà. Il n'y a pas une question où on peut se dire « toi, tu as eu plus ou moins, donc tu as obtenu ». La soumission, dans ce sens-là, elle est totale, et la souveraineté de Dieu, elle est totale aussi. On se place sous sa souveraineté, et en invoquant son nom, on s'attend à lui, avec de l'espérance. L'espérance que les choses peuvent changer, que ce cercle peut être cassé. Si on pense au Christ roi en communauté, on touche vraiment un point important parce qu'il y a différentes tendances, hein, comme je l'ai vu. Et puis pour un peu essayer d'illustrer ces différentes tendances, j'ai décidé de prendre deux extrêmes. C'est toujours assez pratique quand on prend les extrêmes. Comme ça, ça nous donne deux balises, des points les plus extrêmes, justement. Puis ensuite, on essaye peut-être de naviguer au milieu. Vous l'avez compris. Parce que la position médiane du « déjà pas encore » que je vais expliquer, c'est un peu celle que je pense qu'on peut essayer de suivre en tant que communauté. Effectivement, on croit qu'il y a une action de l'esprit qui est encore possible actuellement, que le Christ roi dans le présent, c'est une réalité, qu'il y a une continuité entre l'action de Jésus et l'action de ses disciples dont nous sommes. Et cette action, elle se manifeste de plusieurs manières. Mais, je ne sais pas si vous connaissez, il y a une école qui s'appelle l'école cessationniste, qui était assez en vigueur il y a quelques années, quand je n'étais pas encore né, donc ça fait un petit moment quand même, mais qui postule que les dons de l'esprit et toute l'action de l'esprit, ça s'est arrêté une fois que les apôtres sont décédés. Et ensuite, le peuple de Dieu, l'Église, est appelé à attendre le retour de Jésus. Mais entre deux, on doit juste attendre. Donc, il n'y a pas une action de l'esprit comme dans les actes qui peut être possible pour différentes raisons que je me borne à ne pas expliquer ce matin. Ce n'est pas l'essentiel. C'est juste pour montrer que cette borne, on se dit, les actes des apôtres, oui, c'est dans la Bible, mais ensuite, il y a... On ne sait pas pourquoi une cessation, ça n'existe plus. Et puis, on attend le retour de Jésus-Christ. Alors, il y a une forme de pessimisme dans cette position que je ne peux pas vraiment suivre. Je n'y crois pas. Mais on peut aussi voir, peut-être positivement, que cette manière de voir les choses permet une attente extrêmement forte du retour de Jésus. On se place vraiment dans le futur, puis on y croit vraiment, on veille, on attend jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais pour moi, elle est un peu extrémiste dans le sens où je pense qu'il y a une continuité entre l'action de Jésus et l'action de ses disciples, puis je ne vois pas pourquoi elle s'arrêterait à la fin des actes des apôtres ou à la fin des actes que les disciples ont pu faire, les disciples de Jésus. On le voit par l'expérience, Dieu agit encore actuellement, et on le voit aussi bibliquement, il n'y a rien qui nous permet de dire le contraire. À l'autre extrême, puis ça c'est un mouvement qui est peut-être plus en vogue à l'heure actuelle, il y a ce mouvement que j'appelle « Heaven on Earth », en français ça donne « le ciel sur la terre », c'est vraiment de se dire, c'est comme si actuellement, dans le présent, on est déjà au ciel en fait. C'est comme si tout est déjà accompli, que la plénitude de l'esprit est là, et puis qu'il suffit juste d'en profiter et puis de se brancher là-dessus. Donc là, c'est la position extrême. Hein. On n'attend quasiment plus le retour véritable de Jésus. On se dit que tout est déjà là et qu'il suffit finalement de le voir et d'en profiter. Donc, positivement, cette position, moi, je trouve qu'elle est très intéressante parce qu'elle nous pousse en avant. Elle nous donne vraiment cet élan. Puis on se dit, oui, c'est possible. Oui, c'est possible, cette action de l'esprit peut encore se manifester de nos jours. Parce que des fois, on en doute peut-être. Mais là, cette position, elle nous booste d'une certaine manière, puis elle nous dit, oui, c'est possible. La faiblesse, vous l'avez compris, c'est qu'elle met ou elle risque de mettre de côté toutes les sensibilités qui sont là, notamment la présence encore de la souffrance, le fait que, malgré tout, on reste mortel encore, hein, faut pas se leurrer. Et puis, elle nivelle un peu toutes ces difficultés. Puis, bibliquement, elle ne tient pas la route parce qu'on sait bibliquement que lorsque Jésus va revenir, c'est à ce moment-là et à ce moment-là seulement que tout sera rétabli et qu'on sera dans la plénitude de sa présence. Maintenant, on est dans cet entre-deux. Puis je pense qu'avec ces deux positions extrêmes, vous comprenez mieux cette expression « déjà, pas encore ». Oui, on est déjà par moments dans cette plénitude de l'esprit. On le sent, on a, j'espère, tous fait des expériences particulières dans ce domaine-là où on a pu sentir la présence de Dieu de manière forte. Généralement, c'est un peu des jalons dans notre vie. Mais non, on n'y est pas encore parce qu'on s'attend au retour futur de Jésus qui va arriver bientôt. Comme ça, je ne prends pas de risque. On ne sait pas quand c'est ce bientôt. Seul le Père connaît l'heure, connaît le moment. Mais nous, en tant que peuple de Dieu, en tant qu'Église, on s'y attend. C'est pour ça qu'on est dans ce déjà, on s'attend à l'action de l'Esprit, on se met en pleine soumission, en possibilité que l'Esprit agisse en nous et dans notre communauté, mais on attend avec fermeté et foi qu'il revienne définitivement pour installer son règne. On est dans ce déjà, pas encore. Oui, l'Esprit Saint est à l'œuvre, oui, le Christ roi est à l'œuvre dans le présent, mais il sera pleinement à l'œuvre lorsqu'il reviendra lors de son retour sur terre. Assumer notre identité d'église vivante, c'est assumer une identité d'église un peu entre les temps. On est dans cette position peut-être que certains pourraient trouver inconfortable, certains pourraient trouver un peu difficile à vivre, mais ma foi, c'est comme ça. Là, il y a une forme de réalité à prendre en considération. On est entre les temps dans ce « déjà, pas encore ». Et au sein de ce « déjà, pas encore », il y a vraiment cette nécessité pour s'attendre à l'action de l'Esprit que l'on puisse vivre ce temps particulier pour l'Église en unité et en harmonie. Ça ne sert à rien de vouloir tirer d'un côté ou de l'autre. On est appelé à vivre ce temps, peut-être inconfortable, mais c'est ce temps-là que Dieu a voulu pour nous et pour son Église. Alors, selon notre expérience, selon notre sensibilité, la balance va pencher plus ou moins d'un côté ou de l'autre. Tout le monde aura une position un peu particulière. Si on fait une échelle, personne ne sera forcément au milieu. Si on fera l'échelle aussi pour notre communauté, puis qu'on devait se placer chacun individuellement, je pense qu'on remplirait une bonne partie du spectre. Et c'est normal. Le challenge pour nous, c'est de vivre tous ensemble cet élan, de se dire, on s'attend à l'action de l'esprit en prenant en compte les différences et les sensibilités de chacune, de chacun. Un manque de respect mutuel dans cette ouverture à l'autre, pour moi, entraîne la paralysie des églises. Des guéguerres stériles, et puis je pense que ceux qui ont plus d'expérience que moi, vous pourriez en dire beaucoup sur ces guéguerres de sensibilité qui ont souvent paralysé l'Église. Moi, j'en ai entendu parler, j'ai eu la grâce de jamais trop en vivre. Mais toujours est-il qu'il me semble que le constat qu'on peut en faire, c'est que ça paralyse, puis qu'il n'y a plus rien qui se passe. Mais que dans l'unité, dans la conviction commune, dans cette foi partagée, on peut aller de l'avant. On peut se dire, lève-toi et marche. Puis je vous laisse ce texte que je vous ai déjà donné la semaine passée pour se dire que là, il y a vraiment pour moi quelque chose à saisir d'un cœur de ce que l'Esprit de Dieu, ce Christ roi dans nos vies veut faire. L'enjeu principal, c'est d'être en continuel changement d'attitude. Quand on parle de conversion, quand on parle de changement radical, c'est cela. Changement d'attitude, pourquoi ? Pour être ouvert à ma volonté, non, à la volonté de Dieu qui seul peut nous permettre de changer. Quand on se soumet, on se dit, mais c'est à toi, mon Dieu, que ça appartient. Ce n'est pas à moi que ça appartient, c'est à toi par l'action de ton esprit. Et la puissance secrète ou visible, comme je vous l'ai dit, du Saint-Esprit, totalement au service de l'amour infini, travaille au-delà des apparences pour apporter le triomphe final, non pas celui de nos propres intérêts, mais celui du royaume de Dieu. Ça nous donne une visée, ça nous donne un élan, et puis ça nous permet de nous dire ce matin, en tant que communauté, en tant que personne, j'ai envie de nous transmettre ce signe d'encouragement, pas pour dire qu'on est paralysé, mais pour dire que dans les domaines de nos vies où on sent qu'on a besoin de cette aide de l'esprit, de cette visitation particulière, on puisse se dire aussi pour nous, lève-toi et marche, levons-nous et marchons. Qu'on puisse libérer cet esprit de Jésus-Christ, Christ qui est en loin de l'éternel, le roi, dans la liberté de chacune et chacun. Je pense que c'est une libération qui peut que se passer dans la liberté de chacune et chacun. Si on commence à canaliser, on n'est pas forcément dans le juste d'après moi. Je vous laisse ce verset final qui va faire la transition aussi pour la Sainte Cène. Oui, c'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus pour que nous menions une vie riche en actions bonnes. Et ces actions, Dieu les a préparées pour que nous les fassions. Alors pour ce temps de scène, puis j'invite Laurent aussi à me rejoindre pour aussi partager encore un texte, qu'on puisse vraiment le vivre comme un temps de ressourcement. Un temps où on se met en rapport particulier avec ce roi des rois qui vient simplement à notre table partager ce repas avec nous. Ce temps particulier où on se dit « Seigneur Jésus, par ton esprit, viens dans mon cœur, viens peut-être toucher certaines des paralysies que j'ai, et puis qu'on puisse entendre sa voix qui nous dise « Lève-toi et marche ». C'est ça que Dieu veut pour nos vies. Ce n'est pas qu'on reste paralysé, ce n'est pas qu'on reste engoncé dans nos habitudes, mais c'est qu'il nous dit « Lève-toi et marche, levons-nous et marchons ».